Donc, la dernière fois, nous avons commencé à étudier ce que j'avais appelé la modernité ottomane. Et évidemment, un aspect de cette modernité, un aspect fondamental, parce que ça nous influence jusqu'à aujourd'hui, c'est évidemment les transformations de la pensée islamique dans cette période. Donc, comme je l'ai expliqué les fois précédentes, dans le système ottoman classique, traditionnel, il y avait les gens de la maison, des maisons princières, enfin, gens de pouvoir, et les gens des écoles religieuses, et donc la première génération des réformateurs de l'Empire ottoman était sorti du milieu des maisons des puissants et des écoles religieuses, les madrassas. Mais progressivement, la nécessité de la modernisation conduit à la création d'écoles spécifiques pour les besoins de l'État. C'est-à-dire que progressivement, il y a transfert des écoles religieuses traditionnelles madrassa aux écoles modernes qui sont d'abord des écoles liées aux besoins de l'armée, formation de médecins, d'officiers, etc. Et puis ensuite la mise en place très progressive d'un enseignement scolaire étatique à côté de, le plus important à l'époque, réseau scolaire des écoles missionnaires européennes. Et puis vous avez la pratique d'envoyer des jeunes gens se former dans les écoles européennes elles-mêmes, à Paris ou un peu plus dans l'ensemble de l'Europe. Alors, ce qui, évidemment, va introduire dans la seconde moitié du XIXe siècle une crise profonde dans l'enseignement traditionnel religieux qui, vous le savez, était un enseignement où vous aviez un cher, un savant, qui enseignait de façon un peu informelle à tout un groupe de disciples d'âges différents. Vous voyez sur ce dessin que je vous ai montré déjà, vous pouvez avoir des enfants, mais aussi quelqu'un qui est déjà adulte avec une barbe noire qui suit l'enseignement du cher. Ces enseignements comprenaient bien toute une série de savoirs scientifiques et rhétoriques, mais c'était des savoirs qui s'inscrivaient dans une tradition plus que millénaire, puisque c'était tout simplement la poursuite en terre d'Islam de l'héritage intellectuel de l'Antiquité, sous sa forme la plus classique, ou si on est plus précis, de l'Antiquité tardive. Et donc, on pouvait enseigner la philosophie grecque et une série de sciences héritées de l'Antiquité, mais qui avaient été perfectionnées dans les époques médiévales par les Arabes, comme la médecine, la mathématique, et ainsi de suite. Mais le fait fondamental, c'est que d'un seul coup, l'ensemble de ces savoirs plus que millénaires se trouve déclassé par l'arrivée des savoirs européens. Et en même temps, toute la pédagogie traditionnelle est complètement transformée, puisqu'on passe de l'enseignement de maître à disciple au système de la classe, avec un professeur sur une estrade s'adressant à un ensemble d'élèves qui, en général, ont un âge à peu près équivalent et avec un savoir de plus en plus spécialisé. Par ailleurs, l'État moderne cesse progressivement de recruter dans les écoles religieuses puisqu'il recrute ses cadres dans les structures de l'enseignement moderne. Donc les savoirs comme la pédagogie sont complètement en crise ou en tout cas en transformation intense. Et c'est bien ce qui se passe avec la charia, donc la loi, mot à mot chemin pour respecter la voie de Dieu, c'est-à-dire un ensemble complexe de prescriptions, de règles et d'idées qui constituent en soi un ensemble de modes de vie. Or, cette voie pour respecter, ce chemin pour respecter la voie de Dieu peut aussi être traduit de façon juridique. Et on l'a vu, c'est ce qui se passe, et on le reverra encore plus dans le système colonial, où le système colonial invente à partir de l'héritage islamique ce qu'on appelle la loi islamique ou le droit musulman. C'est-à-dire qu'il codifie un ensemble de textes et le structure en termes de loi sur le mode occidental. Donc ça, c'était le premier problème. Vous aviez aussi le fait que la tradition sunnite, c'était la même chose en chiisme, mais un peu plus, de façon un peu différente, insistait sur le suivisme, l'imitation, le taqlid, c'est-à-dire qu'on devait plutôt suivre les opinions précédemment avancées plutôt que d'explorer de nouvelles voies de savoir et d'interprétation. L'interprétation, la fameuse ijtihad, était très limitée pour cette raison. Alors, en chiisme, c'était un peu différent, mais le sens est le même malgré tout. Or, la modernité crée un ensemble de problèmes nouveaux que l'imitation des anciens ne peut résoudre, puisque l'imitation des anciens ne connaissait pas les problèmes nouveaux posés par l'arrivée de la modernité de cette seconde moitié du XIXe siècle. Et on ne peut même pas demander à l'État de condamner la modernité, puisque l'État lui-même est devenu l'expression de cette modernité, puisque le but des hommes d'État de l'islam de cette période est d'essayer de bâtir un État moderne pour résister à la domination européenne. Et enfin, problème supplémentaire, jusque-là, les savants en religion avaient le monopole de la parole sur la religion. Or, l'introduction de l'imprimerie, des journaux, de la presse, etc., va créer un nouveau groupe, dont nous allons beaucoup parler maintenant, qu'on peut définir comme étant celui des intellectuels, qui vont s'exprimer sur les questions islamiques, tout en n'ayant pas la formation des savants en religion de façon classique. Donc, vous voyez, transformation des savoirs, transformation des problèmes, transformation des groupes. Tout ça, c'est donc le problème essentiel qui structure l'élaboration de la pensée islamique dans la seconde moitié du XIXe siècle. Dans les années 1860, le sultan Abdelaziz a laissé gouverner les fameux vizirs réformateurs dont je vous ai déjà très abondamment parlé, les fameux Ali Pacha et Fouad Pacha, l'un et l'autre alternant dans les fonctions de grand vizir et de ministre des Affaires étrangères. C'étaient des réformateurs, mais des réformateurs autoritaires. Ce qui fait que ce qu'on appelle les Tanzimat, cette réorganisation de l'appareil d'État et en fait de la société, les Tanzimat, c'est du modernisme autoritaire, c'est de la transformation impulsée par le haut et on brise les résistances. En même temps, il y a du mécontentement parce que l'émancipation des chrétiens n'a pas permis de régler les questions confessionnelles puisque, en fait, les communautés chrétiennes se transforment de façon inexorable de communautés religieuses en groupes ethniques. Et on a vu, les affaires de Crète, dans les années 1860, avaient maintenu ouverte la question chrétienne en dépit des efforts d'émancipation. Donc il y a vraiment un malaise profond dans la société ottomane de ces années 1860, et par rapport à ce malaise va émerger une nouvelle contestation venue du milieu même des réformateurs. Ce sont des jeunes gens, qui donc la nouvelle génération des réformateurs, c'est-à-dire des gens qui ont été formés à l'âge des réformes et qui sont des produits de l'appareil d'État réformé. C'est des jeunes gens qui s'inspirent ou se revendiquent du libéralisme européen, du mouvement libéral, et en particulier du carbonarisme. Comme tout le monde entier de la seconde moitié du XIXe siècle, l'idole mondiale des années 1860-1880 dans le monde, c'est Garibaldi, aussi bien en Amérique qu'en Europe. Et donc le carbonarisme, Garibaldi, c'est aussi évidemment pour ces jeunes intellectuels le grand modèle qui inspire leur action. Alors on va appeler ce groupe d'intellectuels les jeunes ottomans. Le type même de jeunes ottomans renvoie à l'expérience italienne du carbonarisme, la jeune Italie, qui était l'un des mouvements carbonaristes de l'Italie de la période. Alors, il s'exprime d'abord dans la presse en s'en prenant à la politique d'abandon dans les Balkans et en Crète. Mais leur nouveauté radicale est d'affirmer que le seul moyen de consolider l'Empire est d'en libéraliser les institutions par le biais de la consultation des populations, en allant bien au-delà des cadres administratifs de l'Empire qui prévoient déjà des conseils délibératifs dans les villes et dans les provinces. Évidemment, le pouvoir autoritaire réagit rapidement par rapport à ces premières revendications des jeunes ottomans qui partent en exil en Europe. Et c'est là où on entre dans une affaire complexe, c'est que c'est bien d'avoir des idées, et c'est bien de souffrir pour sa cause, mais enfin, il faut quand même vivre. Et donc, en fait, ces jeunes ottomans vont avoir des subsides des adversaires politiques des vizirs réformateurs pour continuer de produire, continuer d'écrire, etc. Et par exemple, le Khédive Ismaïl, quand il est en conflit avec la Porte, ben, n'hésite pas à financer ces intellectuels qui sont eux-mêmes des opposants aux vizirs réformateurs. Donc la modernisation, et en particulier la presse et l'édition, permettent la construction d'un nouveau discours qui correspond aux attentes d'une opinion publique musulmane angoissée par la question du déclin de l'islam, qui maintenant se perçoit comme arriérée par rapport à l'Europe, alors qu'au même moment, les religieux musulmans paraissent totalement incapables de fournir une réponse adéquate par rapport à ce sentiment de retard sur l'Europe. Donc, l'un des grands exercices de style quand vous étiez un homme d'État ottoman était de rédiger un texte-programme qui, en gros, était du retard du monde musulman, ou des retards des musulmans sur l'Europe, et des moyens de le rattraper. Alors, si l'homme d'État n'était pas capable de rédiger le texte lui-même, il avait toujours un intellectuel pour rédiger son texte. Mais le principal, c'est que les responsables de l'État ottoman se devaient de prendre position pour ce qui est devenu absolument flagrant pour l'élite politique de l'Empire. Cela dit, il y a bien une opinion publique, mais les chiffres ottomans sont encore très loin des chiffres européens. Le niveau d'alphabétisation de l'Empire dans les années 1870 doit être de l'ordre de 5% de la population totale, avec une surreprésentation des minorités chrétiennes où les taux d'alphabétisation sont considérablement plus élevés. Les taux d'alphabétisation féminin sont extraordinairement bas dans la population musulmane 1 à 2%, alors que chez les chrétiens, le taux d'alphabétisation des femmes est beaucoup plus élevé, même s'il n'atteint pas celui des hommes. Donc, il y a bien une opinion publique, il y a bien connaissance des idées modernes, mais ça ne touche qu'une fraction numériquement relativement faible de la population, mais évidemment, c'est la fraction gouvernante de la population, c'est les milieux économiques, ceux qui ont le pouvoir, qui constituent en quelque sorte cette opinion publique. En septembre 1871, Ali Pacha meurt et il n'y a plus de grande personnalité, puisque Fouad Pacha est mort 2 ans avant, chez les vizirs réformateurs. Alors, l'homme qui monte dans le milieu des réformateurs, c'est le fameux Midat Pacha, dont on a déjà parlé à propos de l'Irak à la fois précédente. C'est moins un intellectuel, Midat, c'est d'abord l'homme qui a réalisé des réformes importantes en province, d'abord en Bulgarie et puis ensuite en Irak. Mais c'est un homme fort, un homme autoritaire, et le sultan et son entourage s'en méfient. D'autant plus que le sultan Abdelaziz a des comportements de plus en plus erratiques, ce qui introduit une très grande instabilité dans le gouvernement de l'Empire. Il change de ministre tous les 3 mois. Enfin, c'est la pagaille dans le pouvoir central. Et dans cette pagaille, les jeunes Ottomans qui étaient en exil peuvent revenir dans la capitale. Les jeunes Ottomans représentent la première manifestation de ce qu'on appellera au XXe siècle l'islam politique. Ils essayent de faire une synthèse entre les conceptions et le vocabulaire ancien du pouvoir depuis les origines de l'islam, la volonté de refonder les institutions ottomanes et les idées nouvelles de l'Europe. Ils sont donc à la fois des apologistes de l'islam et les défenseurs de la nécessité de moderniser. Ou plus exactement, ils affirment qu'il n'y a pas de contradiction entre la religion et le libéralisme. La synthèse la plus complète est ici représentée par Namık Kemal, dont vous avez le portrait, vous voyez, qui est un portrait complètement européen. Donc Namık Kemal, il est complètement à la Franca, comme nous verrons tout à l'heure. Selon lui, le fondement de la société est le contrat. Le contrat qui est d'abord représenté par la loi islamique, qui est un contrat entre Dieu et les hommes. Et ensuite, tout pouvoir est issu d'un contrat, puisque la notion traditionnelle en islam de bayra, d'allégeance au pouvoir, normalement quand un pouvoir s'installe, on fait allégeance par un acte de bayra, la Bayra devient chez Namık Kemal l'équivalent du contrat social entre la société et le pouvoir. De ce fait, la société a le pouvoir de révoquer son allégeance si le gouvernant trahit ses obligations. En conséquence, la souveraineté réside dans le peuple. D'où la nécessité d'établir des institutions représentatives. Et là encore, Namık Kemal reprend la vieille version de la Shura dont j'ai déjà parlé, la consultation, vieux concept politique qui dit simplement, banalement, qu'un chef doit consulter ses adjoints, mais qui devient chez Namık Kemal l'équivalent du système constitutionnel parlementaire européen. Là, tout se place dans le cadre d'une patrie ottomane ayant néanmoins une forte identité musulmane. et de plus en plus, enfin, ça commence à devenir un thème sous-jacent, turc. Le tour de force de Namık Kemal et de son groupe préside dans l'affirmation d'un libéralisme qui prétend être la restauration des institutions ottomanes d'avant l'ère des réformes. Par ailleurs, le même Namık Kemal développe l'idée d'union musulmane, ittihad et islam en turc, dans le contexte de la progression russe en Asie centrale. Mais là, il s'agit chez lui plus d'un sentiment collectif que d'un programme d'action. Ce mélange de traditions islamiques et d'idées nouvelles européennes se retrouve dans les autres écrits des idéologues du mouvement jeune ottoman, parfois de façon confuse. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que ces intellectuels discutent en même temps dans leurs écrits d'une société islamique idéale, confrontée à des références venant de la philosophie des Lumières européennes et du libéralisme du XIXe siècle. Et que plus ou moins contre leur gré, ils font l'opération intellectuelle absolument fondamentale de traduire les termes politiques du libéralisme européen en langue de l'islam. C'est-à-dire donc de dire la Bayra, c'est le contrat, la Shura, c'est le Parlement, et ainsi de suite. De telle façon qu'en islamisant le libéralisme, en quelque sorte, il cesse d'apparaître comme étranger et d'origine chrétienne. Mais c'est en même temps en s'appuyant sur l'islam que ces libéraux contestent l'autoritarisme des réformateurs des Tanzimat. Par rapport à ces derniers, les jeunes Ottomans montrent une meilleure connaissance de la pensée européenne et de l'héritage islamique. C'est la démonstration qu'il émerge bien un groupe nouveau, celui des intellectuels, et ils annoncent les modernistes islamiques du début du XXe siècle. Pour les hommes d'État plus pragmatiques, parce que de toute façon, tous ces intellectuels sont liés à l'appareil d'État à un degré divers. Et ils servent de conseillers, de plumes aux responsables de l'État ottoman. La notion, donc pour les hommes d'État qui sont au pouvoir, la notion de consultation, outre l'arme politique que ça pourrait représenter dans la lutte pour le pouvoir, permettrait de résoudre le dilemme de l'Empire. Sous la pression de l'Europe, les non-musulmans ont été émancipés sous forme de communautés disposant de privilèges spécifiques et de protections étrangères. Établir un régime représentatif conduirait nécessairement, par le biais à l'association au pouvoir, à diminuer ses privilèges des communautés et ses ingérences étrangères pour établir un vrai régime d'égalité entre musulmans et non-musulmans. Alors, le problème, c'est que cette vision d'une représentation politique qui égaliserait le statut des musulmans et des non-musulmans, qui en ferait en quelque sorte tous des individus par rapport à l'État et non plus des communautés, ne prend pas en compte le passage progressif des communautés chrétiennes balkaniques d'abord, et un peu, et ça commence maintenant à s'étendre à l'Anatolie. Donc le passage des communautés chrétiennes de la communauté à la nation. La différence, c'est que la communauté n'est pas territoriale, tandis que la nation est territoriale. Et d'autre part, elle se heurte au fait que l'Empire ottoman reste malgré tout un califat et que son identité islamique est forte. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de contrat implicite au milieu du XIXe siècle qui est on donne des privilèges aux communautés non musulmanes parce que l'État est musulman. Donc, si on veut établir une vraie égalité d'individus, il faudrait à la fois que les communautés perdent leur privilège de communauté, mais que l'État cesse d'avoir cette identité islamique. C'est-à-dire que ça pose à la fois aux musulmans et aux non-musulmans des choix absolument radicaux qu'ils sont bien évidemment incapables de prendre. Donc, les jeunes ottomans travaillent en quelque sorte à islamiser les réformes dans leur tentative de concilier le libéralisme européen avec les principes de la religion. Ils s'expriment en turc ottoman et pas en arabe. Mais dans les provinces arabes, il se développe un mouvement parallèle avec lequel les jeunes ottomans sont en relation, mais dont le milieu et l'inspiration est nettement différente, parce que dans ce second mouvement que nous allons voir maintenant, là, les religieux sont présents, contrairement à l'autre groupe. Alors, ce mouvement va être étroitement associé à la grande personnalité totalement énigmatique de Jamal ed-Din, dit Al-Afrani, l'Afghan. Personnalité dont nous allons commencer à parler aujourd'hui, mais je vous préviens tout de suite, on va encore en parler pendant 2 ou 3 ans dans ce cours, parce qu'à certains moments, nous irons jusqu'à le suivre au jour le jour dans certaines de ces entreprises. Donc, voici la photo, une des rares photos que nous avons de Jamal ed-Din Al-Afrani. Alors, il est maintenant établi, même si ça fait hurler un certain nombre de milieux musulmans sunnites encore aujourd'hui, que Jamal ed-Din est bien d'origine persane et chiite, et non pas afghane et sunnite. Il est né en 1254 de l'Égypte, soit 1838-1839, à proximité de Téhéran. Il a suivi l'enseignement religieux chiite, en particulier dans les villes saintes chiites de l'Irak. Il s'est aussi rendu en Inde dans sa jeunesse. Il commence à être connu en s'établissant en Afghanistan dans les années 1860, où il se fait passer comme sunnite, d'où le nom de, surnom d'Al-Afrani, qu'il prend à ce moment-là. Il est suffisamment déjà connu à ce moment-là pour apparaître dans les dossiers du consulat britannique en Afghanistan. Ça veut dire qu'on se méfie de sa personne. Les Britanniques, à ce moment-là, pensent que c'est un agent russe. Ensuite, en 1869, venant d'Afghanistan, il s'installe à Constantinople. Il semble avoir tenu en public des discours plutôt hétérodoxes, où il aurait prôné la supériorité de la science moderne sur le prophétisme. Et surtout, c'est un des premiers à développer l'idée d'une unité musulmane. Ce qui est proche, qu'on a vu, de la thématique des jeunes ottomans, appel à l'union de tous les musulmans contre la progression européenne et d'abord la progression russe. Le moment essentiel est son installation en Égypte de 1871 à 1879. Il donne des enseignements à la grande université religieuse d'Al-Azhar et à son domicile. Je n'ai pas subi, pas mis les noms qu'il fallait, mais c'est pas grave. Bon. Autour de lui, en Égypte, se constitue très rapidement un groupe de jeunes gens qui suivent leur guide, on pourrait dire leur gourou, parce qu'il a un véritable charisme. Et on trouve donc des gens comme un jeune religieux tout à fait brillant, qui n'est autre que Mohamed Abdou, dont nous aurons aussi l'occasion de parler longuement, mais aussi des chrétiens syriens comme Adi Bistrak, Louis Sabounji, dont nous aurons l'occasion de parler, ou d'un écrivain juif d'origine, Jacob Sano, James Sano, dont nous reparlerons aussi l'année prochaine. Il leur apprend ce que doit être le vrai islam en matière de théologie, de jurisprudence, de mysticisme et de philosophie. Il insiste sur la priorité qui doit être donnée à la science et au rationalisme dans la continuité de la tradition philosophique islamique médiévale. C'est là où, pendant longtemps, il y a eu un contresens sur Afrani. Il s'est toujours présenté comme rationaliste. Et donc, on a pensé que son rationalisme venait de la philosophie européenne. Alors qu'en fait, c'est le rationalisme de l'Antiquité, continué dans la culture islamique, dont il est l'expression dans cette seconde moitié du 19e siècle. C'est parce qu'on connaissait très mal la tradition philosophique, en particulier la puissance de la tradition philosophique en Iran au 19e siècle, qu'on avait fait cette erreur d'interprétation qui a été rétablie donc, dans les travaux récents pour montrer combien sa pensée s'inscrit dans les cadres de la vraie vie intellectuelle qui existait en Iran, enfin en Perse, au XIXe siècle, dans l'occasion de parler. Ce qui complique les choses, c'est que Afrani est aussi l'héritier d'une tradition philosophique chiite qui fait la distinction entre... alors, les termes sont un peu pédants, c'est ce que disait Henri Corbin jadis, entre l'ésotérique et l'exotérique. C'est-à-dire que le message religieux musulman a deux sens. Il a un sens compréhensible pour tout le monde, c'est l'exotérique, et un sens particulier réservé à une élite qui a seul les moyens de le saisir, et c'est le sens ésotérique. La religion s'exprime à la fois pour l'élite, al-Rassa, et pour le peuple, al-Amma. Donc, pour le peuple, on va s'exprimer d'une certaine façon, parce que le peuple ne peut comprendre le sens de l'islam que de cette façon-là. Mais l'élite, elle, a accès à une autre forme de savoir sur l'islam. C'est donc un héritage qui vient de l'époque médiévale, cette distinction entre al-Rassa, al-Ramma, entre le particulier, entre l'élite et le peuple, entre ceux qui ont une culture philosophique et ceux qui ont la vie de tous les jours. Donc, le Hassan al-Ramma ne s'oppose pas, il se complète. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais du coup, ça va rendre extrêmement compliqué l'interprétation de la pensée d'Afrani, parce qu'on ne sait jamais à quelle audience il s'adresse. S'adresse-t-il au peuple? S'adresse-t-il à l'élite? S'adresse-t-il entre les deux? Et quand il parle aux Européens, est-ce qu'il n'y a pas un autre discours à destination des Européens qui est différent du discours qu'il tient aux musulmans? C'est, je veux dire, à cause de ces problèmes d'audience et de spécificité de discours, ça fait des décennies que les historiens tartinent à longueur de page pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient dire exactement et qu'est-ce qu'ils pensaient. Et ça reste encore une énigme, mais à mon avis, on ne le saura jamais complètement, puisqu'il y a évidemment parfois contradiction entre les différents discours qu'il tient en fonction des différentes audiences. Sa spécificité, c'est qu'il s'ouvre à la fois à la pensée occidentale, tout en s'opposant à un adversaire résolu de la mainmise des Européens sur la terre d'islam. Et dans beaucoup de milieux musulmans, ça pose une interrogation. On va régulièrement l'accuser d'athéisme, ou en tout cas d'hétérodoxie. Il se bat en fait sur deux fronts, une réforme interne de l'islam et de son régime politique, et la lutte contre le colonialisme. La tonalité de ses premiers enseignements se rend compte dans ce texte de 1872, où il insiste sur la supériorité de la philosophie qui permet de cultiver les sciences, et il s'en prend à l'arriération des religieux musulmans. Je cite. « N'est-il pas surprenant de voir que nos savants se vantent d'être des sages alors qu'ils ne sont que des incapables, impuissants à distinguer la droite de la gauche ? N'est-il pas surprenant que ces messieurs ne se posent jamais les questions suivantes ? Qui sommes-nous ? Que faut-il ? Qu'est-ce qui nous convient ? L'électricité, les bateaux à vapeur et les chemins de fer dans les gares les laissent indifférents. Il est encore plus étonnant de constater que nos sages veillent accroupis devant une lampe à pétrole durant toute la nuit pour étudier un livre religieux, mais il ne leur vient pas à l'esprit de redemander une seule fois pourquoi cette lampe fume-t-elle lorsqu'elle est couverte. » Donc, il oppose la nécessité de connaître les sciences modernes pour cesser de rabâcher les interprétations traditionnelles des textes islamiques, dans la mesure même où ce rabâchage ne correspond plus au problème du jour. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un rejet de l'islam en soi, mais de l'islam tel qu'il existe à un moment précis de son histoire. Et il faut dire qu'Afrani est le maître d'une rhétorique de la disqualification qui présente les défenseurs du suivisme, du taqlid, par rapport aux générations précédentes, comme les responsables d'un gel de la pensée islamique, la rendant incapable d'affronter le monde nouveau. Il porte donc son action sur la redéfinition de la notion de savoir, qui ne sont plus les sciences religieuses traditionnelles, mais aussi les sciences modernes à portée universelle, ce qui implique, selon lui, qu'on ait recours à l'interprétation, l'ijtihad, qui représente le véritable suivisme par rapport aux grands ancêtres qui, comme les hommes d'aujourd'hui, devaient interpréter un monde de réalité nouvelle. Autrement dit, et là, c'est quelque chose qu'on trouve dans toutes les grandes religions du XIXe siècle, comme problème par rapport à la modernité. Il dit « Être fidèle à l'esprit des anciens, c'est pouvoir interpréter, parce que les anciens interprétaient le monde. Nous qui faisons du suivisme par rapport aux anciens, nous sommes infidèles par rapport à eux, parce qu'eux ne faisaient pas du suivisme, ils interprétaient. » On a exactement le même problème dans le judaïsme à la même époque. Ces questions entre le suivisme et l'interprétation des textes. Je vous rappelle que le catholicisme, lui, condamnait la civilisation moderne, et le libéralisme, c'est le syllabus du pape qui, exactement dans ces mêmes années, 1860. Afrani part ainsi de l'idée que les premières générations des musulmans ont connu de tels succès que parce qu'ils avaient l'esprit philosophique. Et donc, pour retrouver les succès des anciens, il faut retrouver l'esprit philosophique. Et c'est là où on a ces croisements intellectuels toujours surprenants dans l'histoire. Afrani va être très influencé par un penseur français auquel vous ne penseriez pas, mais dont l'œuvre principale vient d'être traduite en arabe en 1877. C'est Guizot, dont l'histoire, le discours sur l'histoire de la civilisation en Europe est un texte fondamental de 1828 et qui vient donc d'être traduit en arabe. Et Guizot va être en quelque sorte, si je me permets cette expression, la Bible des réformateurs musulmans. Guizot qui est lui-même un protestant, je vous le rappelle, dans une France majoritairement catholique. Or, dans la pensée de Guizot, si vous lisez le texte de Guizot, qui est absolument admirable, c'est un grand texte de pensée politique, le livre de Guizot, Histoire de la civilisation en Europe, et ça fait 250 pages. Dans Guizot, il y a l'insistance perpétuelle que le religieux précède le politique. Toute étape de l'histoire de l'Europe passe par du religieux et se transforme ensuite en politique. Par exemple, l'État moderne vient de la centralisation pontificale des papes d'Avignon, avant de devenir l'État laïque et moderne de la période suivante. la pensée libre vient du protestantisme du XVIe siècle pour se transformer en libéralisme au XVIIIe siècle. Donc oui, constamment dans Guizot, la première étape est religieuse et la seconde étape est civile. C'est pour ça que pour des esprits religieux comme les réformateurs musulmans, Guizot est aussi attirant. L'islam a perdu ses qualités de développement social individuel, de croyance en la raison, d'unité, de solidarité, mais peut les retrouver en acceptant les fruits de la raison que sont les sciences de l'Europe. Autrement dit, si les sciences sont le produit de la raison, elles ne sont plus européennes. Vous comprenez l'opération intellectuelle que fait Afrani. Mais aussi, en même temps, c'est ça, la force d'Afrani, c'est qu'à la fois, il faut redécouvrir les sciences en faisant l'usage de la raison, mais en même temps, reconstruire la communauté islamique comme entité politique. Il y a chez lui un appel à la pratique de la raison, mais en s'appuyant sur les traditions des salafs, c'est-à-dire des gens des premières générations de l'islam. Puisqu'il faut se remettre dans la position des salafs qui avaient interprété le monde à leur époque. C'est pour ça que le mouvement intellectuel que construit Afrani dans les années 1870 en Égypte, va entrer dans l'histoire sous le nom de Salafia. Et c'est évidemment, cette première Salafia n'a rien à voir avec ce qu'on appelle Salafia d'aujourd'hui, parce que justement, toute l'opération herméneutique de compréhension du monde que postule Afrani est absente des salafistes d'aujourd'hui, qui sont des purs suivistes. Alors que, justement, toute la pensée de cette première salafia est une condamnation du suivisme. Ce qui rend donc complexe, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il est l'héritier d'une tradition philosophique extrêmement ancienne, de nature ésotérique et rationaliste. S'inscrit dans toute une série de discours en fonction de ses audiences, y compris les discours qu'il adresse aux Européens. Dans son idée, à la limite, dans ce dernier quart du XIXe siècle, pour lui, il faut sauver la religion en général et l'islam en particulier de l'opposition que font les penseurs européens de l'antagonisme entre religion et raison, qui conduit soit à un abandon de la religion, soit à une séparation entre la religion et la vie séculière. Donc, vous voyez, il est en plein pied dans les problématiques religieuses du XIXe siècle. Mais s'il plaide pour la réforme religieuse, pour lui, la priorité est la lutte contre le colonialisme. Européens en général et britanniques en particulier. Ce qui va conduire Afrani, pour s'opposer à l'Empire britannique, à faire de l'islam une arme politique, en s'appuyant sur Guizot, ce qui est tout à fait paradoxal d'ailleurs. Si les jeunes ottomans tendaient à islamiser les réformes, les premiers salafistes veulent réformer l'islam. Le protestantisme en général et celui du XIXe siècle en particulier, qui met les peuples anglo-saxons à la tête de l'humanité, on a vu ça dans les séances précédentes, leur paraissent comme le modèle à suivre. Vous rappelez qu'à l'époque, les catholiques paraissent comme des arriérés, donc ceux qui sont à la tête de l'humanité, ce sont les protestants britanniques, éventuellement allemands et américains, et à la rigueur, les rationalistes français laïcs, puisque le catholicisme, c'est l'ennemi de la raison, de la liberté, de la libre pensée, et ainsi de suite. Les deux mouvements, donc les jeunes ottomans et les salafistes, sont la première élaboration complexe de pensée issue de la rencontre entre l'héritage islamique et de la culture moderne européenne. Culture moderne européenne qui maintenant, on est aux horizons de 1875, est maintenant bien connue, soit parce que ces gens-là lisent les textes dans leur langue d'origine, soit parce que la pensée européenne commence à être traduite massivement dans les langues de l'islam. Mais ce débat intellectuel touche aussi la structure de la société. Vous avez une caricature qui serait presque encore d'aujourd'hui, c'est une caricature ottomane entre deux femmes, la voilée et la demi-voilée, à Constantinople. C'est une caricature de 1874. La voilée dit à l'autre, vous devriez avoir honte, et on lui répond, c'est vous qui devrez avoir honte de votre tenue dans ce siècle de progrès. Toute la problématique du voile et du dévoilement est déjà en place vers 1874, comme montre... elle n'est pas encore complètement dévoilée. Mais on sent l'européenne, enfin celle qui a le costume européen, et celle qui est restée aux coutumes orientales. En fait, toute la vie matérielle est maintenant pénétrée des multiples signes d'européanisation qui vont de l'habillement à l'ameublement, en passant, et ça j'insiste parce que c'est très important, par les nouvelles pratiques du corps. La caricature ottomane l'exprime de façon permanente sous un jeu assez amusant de l'opposition des choses entre Allah Turca, Allah Franca. On fait les choses soit à la turque, soit à la franque. Et avec à chaque fois des sous-entendus. Si on est Allah Turca pour les Franca, on est des barbares rustres et tout. Et pour, si on est à la Franca, pour les Allah Turca, ce sont des gens qui trahissent leur culture, leur monde, leur religion, pour adopter les mœurs des autres. Mais ce qui est fondamental pour les dernières décennies de l'Empire ottoman, c'est ça se passe en même temps de façon amicale, mais c'est qu'on est constamment dans l'opposition à la Turca, à la Franca. D'ailleurs, Jules Verne l'avait très bien compris, puisqu'il avait consacré un roman à ce sujet, qui est Kéraban le Têtu, qui pose justement toute la question chez un ottoman, Kéraban, de l'opposition de Allah Franca à la Turca. Mais est-ce qu'on lit encore Kéraban le Têtu de Jules Verne ? Enfin, je vous le conseille, c'est un livre très intéressant qui se passe vers 1880, autour de la mer Noire, et qui pose justement dans la... chez Jules Verne, cette opposition entre modernité et tradition dans l'Empire ottoman. Dans la classe supérieure, donc, vous avez maintenant des femmes qui s'habillent à l'européenne par rapport à celle qui tient la tenue islamique, avec les différences confessionnelles. Les non-musulmans, surtout les chrétiens, ont tendance à s'habiller beaucoup plus à la franca que musulmans. Alors, il n'est pas possible de continuer ce sujet sur l'islam si on n'aborde pas les autres islams du 19e siècle. Donc, nous continuons maintenant en étudiant les islams non ottomans, parce que, évidemment, nous sommes entrés à la période que les historiens appelle la première mondialisation. Alors, on peut toujours discuter du concept de mondialisation et des périodisations en termes de mondialisation, puisqu'on peut dire qu'après tout, Jean Giscan a été le premier mondialisateur, vu que ces hommes sont arrivés jusqu'au bord de la mer Noire, ou même de l'Adriatique, et donc il y a eu une mondialisation mongole. On peut discuter donc, et Marco Polo est allé en Chine, de ce fait, on peut discuter. Moi, j'appelle première mondialisation le moment où on entre dans le temps réel, c'est-à-dire où les lignes temporelles, enfin les lignes isochrones cessent d'exister. Vous savez ce qu'on appelle un isochrone ? C'est le temps que met une information à circuler. Alors, il fallait 4 ou 5 jours pour une information d'aller de Paris à Marseille au XVIIIe siècle. Donc, on dresse des lignes isochrones d'arrivée des informations. Mais avec le télégraphe, les lignes isochrones cessent d'exister. On est donc dans le temps réel. Puisque maintenant, quelque chose se passe en Chine, en Indochine, dans les années 1880, on est au courant à Paris dans 3 heures ou 6 heures. Là encore, Jules Verne vous le rappelle, dans Michel Strogoff, les deux journalistes bloquent la ligne de télégraphe de Sibérie pour alimenter la presse européenne sur les nouvelles en temps réel d'un soulèvement en Sibérie. Jules Verne est d'une lecture indispensable pour comprendre la fin du XIXe siècle. Autant Alexandre Dumas, c'est bien pour la première moitié du XIXe siècle, autant Jules Verne est essentiel pour la seconde moitié du XIXe siècle. Alors, avant d'arriver au monde de Jules Verne, on doit d'abord prendre l'évolution de l'Inde. L'Inde, où l'empire du Grand Mongol s'était effondré au XVIIIe siècle, et ce qu'il en restait du Grand Mogol, c'était le sultanat de Delhi, qui était un pouvoir fantoche, sous la tutelle des puissances indiennes de l'Inde du Nord. Puis, après le début du XIXe siècle, ce n'était plus qu'une tutelle de l'East India Company, la compagnie anglaise des Indes. Mais les derniers Mogols de Delhi conservait un grand prestige et était une source de légitimité. En droit, l'East India Company n'a exercé son pouvoir que par transfert de compétences du sultan de Delhi. Delhi et la cour impériale des sultans connaissaient une sorte de renaissance culturelle dans les domaines artistiques et littéraires. Ça, c'est des choses absolument passionnante parce que nous sommes à l'intersection entre la culture de cour traditionnelle des sociétés d'islam et la modernité, puisque à Delhi, vous avez des journaux, des maisons d'édition, donc on a les instruments modernes du savoir, mais en même temps, c'est encore en liaison avec une culture de cour absolument intense, avec des très grands poètes, des grands artistes, des peintres, des miniaturistes qui continuent de produire dans l'entourage du sultan de Delhi. En fait, Delhi, dans la première moitié du XIXe siècle, est la dernière grande expression de la culture indo-islamique qui a plus de 1000 ans d'histoire, malgré tout. Les conquérants britanniques de l'Inde du XVIIIe siècle, dans les premières années, décennies du XIXe, pouvaient être appelés au sens propre du terme des Anglo-Indiens. Parce que ces Britanniques qui arrivaient dans la seconde moitié du XVIIIe siècle arrivaient sans leurs femmes. Et ceux qui survivaient, parce que le taux de mortalité était très élevé du fait des maladies, un Anglais sur deux mourait dans les 5 ans en Inde. Donc, ceux qui survivaient épousaient des femmes indigènes et eux-mêmes participaient à cette culture indo-islamique ou anglo-indienne de la première moitié du XIXe siècle. À Delhi, il y avait de véritables dynasties d'Anglais, dont certains pouvaient même avoir des harems dans la ville sultanienne. Mais les choses vont commencer à se gâter quand vont arriver coup sur coup, en même temps, les femmes et les missionnaires. Évidemment, les men sahib, comme disait chez Kipling, donc les épouses anglaises, remettent de l'ordre. Et progressivement, on va virer les femmes indiennes du milieu britannique, ce qui fait que vers 1850, c'est plus des héritages. Ces anglo-indiens, c'est des enfants de couples anglo-indiens, mais les nouvelles générations de Britanniques en Inde, elles sont maintenant tenues par les Menzib. C'est le monde que va décrire Kipling un peu plus tard dans les simples contes des collines, où on voit ces maîtresses-femmes anglaises qui dirigent la garnison et ainsi de suite. Donc, cette moralisation, qui évidemment est indispensable, puisque nous sommes entrés dans l'ère victorienne, introduit une séparation croissante des populations, alors qu'elles étaient en position mixte dans la période précédente. Et en même temps, arrivent les missionnaires protestants qui cherchent à faire du prosélytisme, ce qui provoque une très forte inquiétude et chez les hindous et chez les musulmans de l'Inde. De plus, la compagnie commence à supprimer les états princiers qui étaient devenus des vassaux de la compagnie. En 1835, l'anglais devient langue d'éducation et l'administration britannique cesse de recruter des employés issus de l'enseignement traditionnel, en particulier ceux issus des écoles musulmanes, des madrasas. Sans politique vraiment réfléchie à l'avance, les Britanniques ébranlent tout l'ordre social traditionnel et la culture qui l'accompagne. Il en est ainsi de l'ordre juridique. Certes, les communautés continuent d'avoir leurs lois religieuses, d'où le fait que les conquérants britanniques définissent une loi islamique pour les musulmans et inventent une loi hindoue pour les hindous. C'est ainsi qu'émerge à la fin du XVIIIe siècle, au Bengale, ce qu'on va appeler l'Anglo-Mohammedan Law, qui est un mélange de droit islamique et de common law britannique, ce qui fait quelque chose d'assez curieux, il faut l'avouer. Cette loi est de plus en plus appliquée directement par les administrateurs britanniques et les savants indigènes sont de moins en moins consultés, parce qu'une fois que les Anglais ont consulté les savants pour codifier l'Anglo-Mohammedan Law, ils l'appliquent directement sans passer par les juges indigènes. De même, les religieux, les ulamas, n'ont plus de prince à conseiller, puisqu'il n'y a plus de prince, puisque la compagnie commence à supprimer les princes. Donc, les religieux, qui jusque-là étaient les conseillers des princes, faute de prince, vont se tourner vers le peuple. Et donc, vous commencez à conseiller le peuple. Et donc, les religieux musulmans vont multiplier les fatwas, les avis juridiques, à la suite des consultations de ce qu'on appellerait la société civile. Mais ces consultations sont maintenant généralisées, parce qu'avant, quand on faisait une consultation, c'était un tel qui consultait tel religieux qui répondait. Éventuellement, on avait un recueil manuscrit des consultations. Mais maintenant, toutes ces consultations sont imprimées. Et elles sont diffusées par l'imprimerie à des milliers d'exemplaires. Donc l'islam se transforme aussi par le fait même de l'usage de l'imprimerie. Le poids accru des religieux dans un contexte de perte de pouvoir se traduit ainsi par une insistance accrue sur l'application de la loi musulmane. Et on a donc un mouvement de purification de la loi par rapport aux pratiques commune entre hindous et musulmans. On trouve ainsi des convergences avec le wahhabisme de la péninsule arabique, qui est d'ailleurs bien connu des religieux indiens. Mais en même temps, dans la cour sultanienne de Delhi, on continue donc à faire de la théologie. nous arrêterons là pour cette séance. Nous faisons la pause réglementaire et nous reprendrons les hostilités.